Et on chante ce matin dans Grand Bien vous fasse, qu'on chante tout seul sous la douche, à quatre voix dans une chorale, ou en s'époumonant dans un stade de foot, ou alors devant l'écran d'un karaoké, qu'on chante sous la pluie ou sous le soleil, du Rammstein ou un madrigal de Monteverdi, qu'on chante juste ou faux, l'effet est le même. Ça fait un bien fou, enfin du moins pour celles et ceux qui chantent, celles et ceux qui écoutent, pas forcément. De nombreuses études ont été menées sur ce qui se joue dans le cerveau quand on chante, et toutes vont dans le même sens. Chanter active les zones liées au plaisir, à tel point que certains n'hésitent pas à parler d'un frisson musical qui s'apparenterait à l'orgasme. Alors on va peut-être pas aller jusque-là ce matin, mais au moins se divertir en poussant la chansonnette et en nous demandant pourquoi chanter nous fait du bien. On attend toutes les productions de vos cordes vocales, mais aussi vos commentaires, vos réactions, vos témoignages. 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous écrire et même laisser des notes vocalisées sur l'appli de France Inter. Merci d'être avec nous ce matin. Grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter. Thomas Chauvineau. Grand bien vous fasse.
Et quatre invités pour chanter ce matin. Bonjour Adèle Charvet.
Bonjour.
Vous êtes mezzo-soprano, vous venez de finir une série de représentations de Roméo et Juliette de Gounod à l'Opéra Comique à Paris. Et puis dimanche, vous serez à Cologne, à la Philharmonie de Cologne, hein, pour chanter du Schubert. On vous le souhaite aussi. Merci d'être avec nous. Bonjour David Lefort.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, vous aussi, au sein des chœurs de Radio France et vous intervenez très régulièrement dans les écoles, les hôpitaux. Alors vous nous ferez part, évidemment, de vos expériences. Et puis j'en profite pour dire que vous serez en concert le 1er et 2 janvier à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, avec le chœur de Radio France. Donc au programme, c'est la 9e symphonie de Beethoven.
De Beethoven, tout à fait. C'est le concert de début d'année traditionnel.
Et au téléphone, nous sommes avec Isabelle Rouge. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin neuro-épidémiologiste au CHU de Saint-Étienne et spécialiste des consultations mémoire. Vous êtes chercheuse également dans les maladies neurodégénératives à l'INSERM. Bonjour Guillaume Lurton.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sociologie économique à l'Université de Poitiers. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la pratique de la chorale en France qui porte un joli titre, Le cœur partagé, avec un jeu de mots, j'imagine, sur cœur. Celui de votre thèse s'écrit avec un H, mais peut-être que vous avez joué aussi sur cette idée-là.
Voilà, et puis avec un double sens également, parce que le monde du cœur est à la fois assez partagé au sens scindé, avec des approches assez différentes, mais en même temps, le cœur, c'est toujours quelque chose qui se partage et qui se rassemble. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette thèse, ces tensions qui sont au centre du fonctionnement du monde choral.
Alors, en lisant votre thèse, je n'ai pas tout lu, mais en tout cas une grosse partie de votre thèse, je me suis demandé si vous chantiez.
Oui, bien sûr, je chante. Enfin, moi, je me suis même fait rattraper par mon sujet de thèse. Hein. Je chantais déjà un petit peu avant la thèse. Évidemment, pendant la thèse, ça c'était déjà il y a une bonne 10-15 ans, je suis allé observer des chœurs, donc je me suis mis également à chanter plus régulièrement que ce que je ne faisais pour participer en fait à la vie des groupes que j'étudiais. Et puis, je me suis même mis à diriger à titre amateur, après la thèse, par un concours de circonstances qui finalement sont assez révélateurs de la manière dont fonctionne le milieu choral. Je me suis aussi retrouvé à diriger, à apprendre à diriger en tant qu'amateur. Donc, voilà, plusieurs regards sur le milieu du chœur.
Et qu'est-ce que ça vous apporte quand vous chantez ?
Ah, déjà ça fait beaucoup de bien, c'est joli. On rencontre du monde, donc ça se joue à plein de niveaux différents. Vous le disiez, hein, on chante d'abord parce que ça active des zones dans lesquelles ça fait du bien. Beaucoup de choristes me le disaient quand je faisais des entretiens. C'est d'ailleurs quelque chose qui revenait. Je disais que c'était quelque chose. Le cœur est partagé au sens séparé avec différentes approches, mais quelque chose qui rassemblait tout le monde, c'est le fait tout simplement que ça fait du bien. On va à la répétition, on chante pendant une heure, deux heures, et puis quand on sort, on est détendu. Il y a alors toutes les comparaisons qui ont été utilisées, le yoga. On m'a aussi sorti l'orgasme que vous évoquiez.
Ça revient
pas, hein. Ouais, ça revient, ça revient aussi. Et puis le moment du concert, pareil, le moment où il y a quelque chose qui se produit, c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans mes entretiens avec à peu près tous les profils de chanteurs, qu'ils soient du niveau le plus amateur au professionnel.
Isabelle Rouge, vous êtes médecin et donc chercheuse, je le disais, vous chantez vous-même ?
Non, je ne chante pas, mais j'apprécie beaucoup les concerts, et notamment l'opéra.
Alors quel rapport vous entretenez avec le chant ?
Pardon ?
Quel rapport vous entretenez avec le chant ?
Je suis spectateur, mais j'éprouve beaucoup de plaisir justement à écouter des personnes comme Adèle Charvet ou les chœurs de Radio France.
Merci.
Alors, Justement, Adèle Charvet, la chanteuse lyrique Renée Fleming, explique que quand elle chante, elle accède à une sorte, on parlait de yoga à l'instant, mais d'état méditatif. Vous, comment vous vous sentez quand vous chantez ?
Moi, depuis, et ça n'a pas changé depuis que je suis enfant, je me sens bien. C'est peut-être une banalité, mais très tôt, je me rendais compte qu'il n'y avait rien qui me faisait plus plaisir que le chant. C'était un plaisir, c'était une sorte de plénitude corporelle. En fait, on apprend, quand on chante, même enfant, sans s'en rendre compte, on apprend à se connaître, on apprend à s'écouter. Et on développe une écoute du corps qui est très précise et très subtile. Et ensuite, il y a la rencontre avec le public. Quand on se rend compte que notre chant provoque une réaction, ça aussi, ça, c'est un plaisir fou.
David Lefort.
Oui, je suis complètement d'accord avec Adèle. Moi, je rajoute à la dimension que vient de décrire Adèle, la dimension moi que je vis quotidiennement avec le cœur de Radio France, qui est ce plaisir un peu collectif et l'impression vraiment de produire un son. Et à chaque fois une interprétation qui est collective. Et là, il y a un réel plaisir aussi qui est pas seulement intellectuel, qui est aussi physique à certains moments, à certains climax de la partition, que des plaisirs qui sont différents. Ça m'arrive aussi de chanter en soliste, mais le plaisir du chant collectif est assez différent. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi vraiment d'en faire mon métier, et j'en suis très fier de ce métier de choriste, de chanteur d'ensemble vocal, parce que voilà cette dimension de travail en groupe, d'entraide, de solidarité est pour moi très très intéressante et apporte un réel bienfait.
Isabelle Rouche, les neurosciences se sont intéressées à ce qui se passe dans le cerveau hein, quand on chante, et donc il y a une hormone qui est produite qui s'appelle la dopamine. En fait, c'est un neurotransmetteur, mais qui est vraiment lié au plaisir.
Oui, tout à fait. La dopamine, c'est l'hormone qui sécrète, le neuromédiateur qui est sécrété dans le circuit de la récompense. Donc, ce qui permet d'éprouver le plaisir. Et également, il y a une sécrétion de nos morphines naturelles, les endorphines, qui permettent de diminuer la douleur. On en reparlera tout à l'heure avec les travaux qu'on a pu faire. Mmh. Si, et également, justement, l'hormone du plaisir, bon, qui intervient
oui, pas uniquement dans le chant, mais en effet, dans l'activité sexuelle ou même dans la prise de drogue. C'est oui. La même hormone qui fonctionne quand on chante.
Voilà, et de chocolat aussi. Et l'ocytocine, c'est ce qui permet aussi de faire le lien social, l'attachement. Et quand on chante en groupe, on a montré qu'on stimule justement ces différentes neuromédiateurs, notamment l'ocytocine, ce qui permet d'avoir du plaisir ensemble et de renforcer notre lien social.
Alors qu'on chante juste ou faux, peu importe, hein, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Donc, je pense que vous connaissez la riche américaine qui s'appelle Florence Foster Jenkins, qui aimait chanter. Alors, en termes de justesse, c'est pas tout à fait ça. Mais on sent, quand elle chante, qu'elle se fait plaisir. Elle a enregistré un disque dans les années 1940. On en écoute un extrait. Alors son histoire a inspiré notamment le film Marguerite de Xavier Giannoli, mais je trouve qu'il y a quelque chose de jubilatoire à l'entendre, bon, au-delà du massacre évidemment, de l'air de la Reine de la Nuit de Mozart. On sent qu'elle se fait du bien, même si c'est complètement faux, David Lefort.
Ah ben oui, j'ai vu le film et j'ai écouté le disque original aussi cette chanteuse américaine, et c'est vrai qu'elle avait un réel plaisir pour elle. Bon, c'est quand même un petit peu particulier, parce que là, je pense que le public aussi, c'était un petit peu un phénomène de cirque pour le public. Mais c'est sûr qu'elle devait prendre beaucoup de plaisir à ça. et voilà, qui devait être partagé sous le mode comique, humoristique avec son public. Mais ça montre un peu ce qu'il faut juste savoir, c'est quand on chante, chacun à son niveau, et finalement plus sérieusement, on chante de manière professionnelle, comme c'est le cas d'Adèle Charvet et moi-même, ou comme des amateurs de plus ou moins bon niveau. Voilà, j'ai eu l'occasion moi de voir différents concerts, de faire des ateliers avec beaucoup de niveaux différents. Finalement, le niveau précisément et l'exigence n'est pas pour chanter et pour avoir du plaisir, c'est pas la condition.
Oui, parce
indispensable,
qu'on pense à tous ces gens qui n'osent pas chanter, qui aimeraient chanter, qui disent
bien
oh non, je ne veux pas, je chante faux, mais finalement on peut, Adèle Charvet, chanter faux et se faire plaisir quand même, c'est pas du tout incompatible.
Ah non, au contraire.
Mais c'est mieux de chanter faux, vous voulez
non,
dire.
Non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais dire. Non, d'abord, on peut développer son oreille. On peut d'abord chanter faux, puis après des années de pratique de la musique et du chœur, entraîner son oreille et chanter plus juste, d'une part. Mais bien sûr, c'est pour ça que la pratique chorale a autant de succès. C'est que ça fait d'abord un bien fou. C'est presque masturbatoire. Et puis, on entre en résonance avec soi-même et entrer en résonance avec les autres. C'est quelque chose de rare. Et le chant, oui, est pour moi le meilleur moyen de le faire.
Guillaume Lurton.
Oui, alors, pour le milieu choral, justement, cette question de chanter faux ou pas chanter faux, c'est assez central au problème, parce que effectivement, il n'y a pas besoin de chanter juste, et la base de la pratique chorale, c'est vraiment d'aller se faire plaisir sans considération de milieu. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est assez présent chez tous les amateurs, de dire au début des entretiens, ils s'excusent presque. Ils me disent, moi, je ne suis qu'un amateur, je suis vraiment pas un bon chanteur, d'ailleurs, c'est pour ça que je me cache un petit peu derrière le groupe. Et puis ensuite, effectivement, il y a la possibilité de progresser, il y a la possibilité d'aller vers autre chose. Et là, je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, et en particulier d'autres sources de plaisir, avec des chanteurs beaucoup plus capés, avec de l'expérience, beaucoup plus de technicité. Ils vont me tenir un discours beaucoup tout à fait différent. Ils vont me dire.
Mais les deux se rencontrent au même endroit.
Alors, c'est là que c'est problématique. Ça peut se rencontrer, mais justement, si on parle de plaisir, ça peut aussi provoquer des situations dans lesquelles, si on met en collectif des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et le même rapport au plaisir du chant, c'est là que ça commence à poser des tensions. Et donc, en fait, toute la question qui va se poser pour un chœur amateur, c'est comment est-ce qu'il va gérer ça ? Est-ce qu'il va réussir à produire un projet assez clair dans lequel on sait que les gens se retrouvent autour de la même chose, on sait qu'on est là pour se faire plaisir, ou alors on sait qu'on est là pour faire du technique, pour progresser, pour travailler sa voix, aller vers un autre type de répertoire. Si les choses sont claires, tout va bien. Le problème, c'est que même s'il y a énormément de choristes et beaucoup de chorales, souvent, en fait, pour des raisons démographiques, on se retrouve avec les mêmes personnes dans le groupe. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas les mêmes temporalités. Il y a des moments où c'est très long, les répétitions, on apprend, c'est un petit peu, si on sait un peu lire la musique, ben on se dit, oh, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, ça se traîne en longueur. Puis, il y a des moments où on se retrouve. Et ça, c'est forcément le concert. Le concert à la fin de la production, c'est généralement ce qui réconcilie tout le monde. C'est le moment où on se dit, bon, ben, finalement, ça valait la peine, on recommence. Et puis aussi, beaucoup les moments de vie sociale. Les repas, les verres et
on est ensemble,
qu'on passe ensemble.
Sur franceinter.fr, Mélanie nous a laissé cette note vocale.
Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis professeure de chant. Et le chant nous permet d'apprendre à respirer, à nous poser, à prendre la parole, à nous affirmer, à nous faire entendre. Et surtout aussi à nous écouter, au sens propre et au sens figuré.
Et puis nous sommes aussi, merci Mélanie pour votre note, nous sommes aussi au téléphone avec Maïté. Bonjour Maïté.
Bonjour à vous et merci de prendre mon appel.
Ah bah merci à vous de nous appeler. Vous vouliez témoigner donc.
Oui, je voulais témoigner. J'ai fait longtemps partie d'une chorale en tant qu'alto et lorsque je chante, j'ai énormément d'émotions. Et souvent, j'ai du mal à les contenir. Et entre autres, alors que je ne suis ni croyante ni pratiquante, la première fois lorsque nous avons entonné le Une vie chrétien, je suis au premier rang, je ne pouvais pas chanter tellement les larmes coulaient. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me renvoyait à lorsque j'étais enfant où je n'avais pas le choix, il fallait aller aller à la messe de minuit, etc. Mes parents, qui faisaient partie d'une chorale, chantaient en haut, à côté de l'orgue, et le soliste qui entamait le minuit chrétien, etc., me poursuivra toujours, et voilà. Mais je voudrais savoir pourquoi ces émotions, je ne peux pas les maîtriser. Et alors, j'ai tous les points qui se redressent.
C'est le principe même de l'émotion.
Pardon ?
C'est le principe même de l'émotion. Souvent, oui, on a du mal à les maîtriser.
Bah, bien sûr, mais quand elles sont énormes à ce point, je veux dire, quelquefois... Alors, ça faisait rire toutes mes collègues qui me disaient « Tiens, là, tu n'as pas pleuré. » Ou « Là, on n'a pas vu tes poils se redresser. » Enfin, bon... Et je leur disais, mais c'est dommage pour vous, parce que si vous saviez le bonheur que ça me donne à ce moment-là, même si mes larmes coulent.
Des larmes de joie. Bah, merci Maïté pour votre très touchant témoignage. Continuez à nous appeler, hein, évidemment, 01 45 24 7000. Isabelle Rouge, vous qui êtes médecin, justement, comment on l'explique, cette émotion comme ça incontrôlée qu'on peut avoir, soit en chantant, soit en écoutant des chants qui nous touchent?
Alors, la mémoire musicale, d'abord, elle est assez large. Et c'est une mémoire qui va être acquise très tôt dans l'enfance. Et lorsqu'on fait écouter, par exemple, un bébé de la musique dans le ventre de sa mère, un an après, il va reconnaître les sons alors qu'on ne leur a fait réécouter entre-temps. Et dans les maladies neurodégénératives, c'est une mémoire qui va perdurer très longtemps. Et donc, c'est une mémoire qui va faire appel aux émotions. Les structures de mémoire et structures de l'émotion, l'amygdale, sont très proches. Et donc, la musique va faire intervenir les deux.
Adèle Charvet, quand vous chantez, vous avez, comme nous a dit Maïté, c'est les poils qui se hérissent, des larmes qui coulent.
Ah oui, ça m'est arrivé très très souvent, je comprends ça très bien. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. D'abord, quand on chante, c'est une mise à nu totale, c'est quelque chose qui relève de l'intime quand même. Et donc, je pense qu'on est dans un état déjà de fébrilité quand on chante. Et en plus, ce que disait cette dame très très justement, c'est qu'on convoque des choses profondes et des souvenirs d'enfance. Et donc, ces deux choses mises ensemble, c'est le cocktail Molotov pour un déferlement d'émotions. Et je comprends ça très bien. Et ça met du temps, effectivement, à se contrôler.
Et moi, je trouve ça très bien qu'elle ait des émotions et qu'elle les laisse. Si cette dame, je pense, donc appartenait à une chorale, je pense qu'elle avait des voisines et des voisins qui pouvaient chanter au moment où elle a eu peut-être un petit arrêt à cause de son émotion trop forte. Mais je trouve ça bien. Voilà, il faut lâcher, c'est l'intérêt du chant aussi.
Oui, c'est absolument cathartique. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on aime ça.
Le plaisir de chanter, c'est grand bien vous fasse. Et on attend toujours vos appels, 01 45 24 7000. Et vous pouvez également nous écrire ou laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter.
It's oh so still. So quiet.
I gotta hit the stone mistake. This is it! Till it's over and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.
It's So So Quiet, Björk, reprise d'une chanson des années 50 de Betty Hutton, elle-même reprise d'une chanson allemande dont le titre était Jetzt ist is still. Là, sur le site de l'émission, vous retrouverez toute la programmation musicale.
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Ce serait difficile sans toi, disait Dodonko, en solo. Tu vas chanter. Ben non, mais la force, c'est d'être toute. Donc il n'y a pas à avoir peur.
C'est grâce à elle que nous sommes là. La chorale a formé, comme on dit, une famille de cœurs.
Les gens qui viennent, je vais être à la retraite, je vais être foutu, je vais m'ennuyer. Attendez, c'est une nouvelle vie qui commence.
S'il vous plaît, on va se chauffer.
Je me dis chaque matin, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui de nouveau? Et chaque jour, on trouve quelque chose. On apprend jusqu'au bout. C'est intéressant finalement, vieillir. On est un peu une page d'histoire.
On a une chance folle.
C'est le plaisir de se retrouver ensemble, de créer quelque chose à l'unisson.
Quatre invités pour parler du plaisir de chanter. Aujourd'hui, la chercheuse Isabelle Rouche, la chanteuse Adèle Charvet, le chanteur au sein du chœur de Radio France, David Lefort, et le sociologue Guillaume Lurton. Guillaume Lurton, est-ce qu'on peut dire que chanter en chorale, ou chanter tout court d'ailleurs, c'est la pratique musicale la plus répandue de France?
C'est une pratique massive. 2 millions de chanteurs parmi les adultes, ce qui représente à peu près 4 à 5% de la population adulte. Et ça, c'est sans parler des enfants, des jeunes. Sur les 5 à 17 ans, on estime le nombre de chanteurs à 1,5 million. Donc ça fait 3,5 millions de chanteurs réguliers en chœur. Donc ça, c'est d'après les chiffres de la Fédération à cœur joie.
Les jeunes qui sont pas toujours, qui n'y vont pas toujours avec le cœur d'ailleurs, parce que les conservatoires oblige souvent à prendre chorale, je parle d'expérience, alors qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller.
Hein. Les jeunes en conservatoire, et puis il y a aussi tout le travail qui est fait dans l'éducation nationale, avec, bon, bah, depuis quelques années, le plan Blanquer pour chant chorale, qui essaye de développer cette pratique. Alors là, je ne sais pas quels sont les bilans, mais oui, c'est quelque chose qui est très très attaché à l'éducation musicale, le chant.
Isabelle Rouche, qu'on soit dans une chorale, à reprendre un chant qu'on entend beaucoup en ce moment, All I Want for Christmas de Mariah Carey, ou bien à hurler des encouragements dans un stade, est-ce que dans le cerveau c'est la même chose qui se joue?
Oui, ça va être la même chose. D'une part, ça permet d'activer les différents centres, hein, que ce soit le cortex auditif qui permet de gérer en premier la musique, le cortex moteur, la musique, ça nous donne envie de danser, hein, par exemple, et différents aires cérébrales, du cerveau gauche, du cerveau droit. Donc vraiment, la musique fait intervenir de nombreuses aires cérébrales. Et puis, donc, on parlait tout à l'heure des différents neuromédiateurs qu'elle permet de faire sécréter, qui permet vraiment, c'est une sorte de symphonie neuronale, hein, comme disent mes collègues qui sont chercheurs en neurosciences de la musique.
Sur franceinter.fr et sur le Facebook de Grand Bien Vous Fasse, ce témoignage qui nous arrive, Séverine nous dit « J'ai commencé le chant cette année, motivée par la vibration que je ressens dans mon corps. Je me sens vivante, c'est pour moi une expression corporelle plus qu'artistique, j'adore. » Mathieu nous dit « Je suis chanteur professionnel, je chante dans deux groupes a cappella notamment. Quel sujet palpitant, je suis toujours émerveillé d'entendre un son se former à partir de rien, puisque dans le cas du chant a cappella, il n'y a que les voix qui se mêlent les unes aux autres. » Ce témoignage également de Caroline qui nous dit « Chanter pour moi c'est très positif, cela m'aide à me sentir bien dans la vie, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Chanter mobilise tout notre corps, c'est donc une activité qui m'aide à me maintenir en bonne santé. » Et puis Théo qui nous dit « Le chant me tend, quand quelqu'un chante à côté de moi, je dois me barrer, ça m'énerve. » Mais c'est vrai, on peut aussi entendre ce genre de choses. Adèle Charvet.
C'est dommage. Oh, mais je ne sais pas trop quoi dire à ce pauvre Théo.
Ça vous arrive assez peu d'être confronté à des gens qui n'aiment pas le chant?
Oui, parce que c'est vrai que quand je parle à mon public, ils ont payé leur place. Donc, a priori, ils ont décidé. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ces témoignages, il y a un aspect total dans le chant. Pas seulement parce qu'on produit un son, mais parce qu'on stimule sa mémoire, on a une marge de progression, on apprend à se connaître soi-même et on apprend à connaître les autres, parce que notamment, moi j'ai aussi fait beaucoup de chœur dans la pratique chorale, on apprend très vite la notion de responsabilité, parce qu'on a une responsabilité dans la polyphonie. On est responsable de soi et des autres. Et donc je pense qu'il y a une solidarité qui en découle. Bon, peut-être que tout le monde ne développe pas ça, mais je pense sincèrement que quand on est un vrai chanteur, on ne peut pas être égoïste.
Et sur l'appli de France Inter, Colombe, qui a 5 ans et demi, nous a laissé cette note.
Bonjour, je m'appelle Colombe, j'ai 5 ans et demi et j'adore chanter. Et ça m'aide à mettre de l'ordre dans mes émotions et aussi dans mes sentiments. Et j'aimerais vous montrer en vous chantant une petite chanson. Toi, ciel qui est si beau, pourquoi me réponds-tu jamais à mes questions? Parce que moi, j'aimerais savoir d'où vient l'univers et d'où vient Dieu.
Bravo.
Merci beaucoup.
Bravo, Colombe.
Colombe. Alors, on n'aura pas les réponses à tes questions. Je pense qu'on est nombreux à nous les poser.
On se les pose encore
et je pense qu'on se les posera toujours. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une pratique, alors, non pas de 7 à... Pourquoi pas, d'ailleurs, de 7 à 97 ans, Guillaume Lurton.
Oui, c'est même une pratique qui, a priori, concerne des personnes plutôt âgées, sociologiquement. Bon, pour des raisons à la fois historiques, c'est qu'il y a eu quand même un grand dynamisme du chant choral dans les années 50, 60, 70. Et puis, bon, les personnes qui ont commencé à chanter à cette époque-là commencent à vieillir. Et puis aussi, c'est aussi très lié au temps libre. C'est-à-dire que pour chanter, faut aussi avoir... Enfin, pour chanter de manière régulière dans un chœur, faut avoir la capacité de se libérer de manière régulière. Et souvent, on voit qu'en fait, les gens qui commencent à chanter, qui découvrent le chant choral, c'est à des périodes où il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, qui fait qu'il y a une nouvelle disponibilité, ou alors le besoin d'aller rencontrer quelque chose. Alors, typiquement, ce qui me revient très souvent dans les entretiens, c'était des personnes dont les enfants commencent à grandir, qui commencent à pouvoir se garder, et qui du coup cherchent une activité qui va pouvoir leur permettre de re-socialiser, de tisser des liens qui se sont distendus pendant un certain temps.
Et les chœurs peuvent être gigantesques, il y a des chœurs qui peuvent atteindre 900, 1000 personnes parfois.
Oui, c'est quand même rare que ça atteigne, en tout cas, ou alors pour des événements particuliers. Mais après, il y a des chœurs, il y a notamment le chœur, je crois, de l'Orchestre de Paris, à la Philharmonie, qui a un chœur amateur, je crois qu'ils sont autour de 150, même si je crois qu'il y a des effectifs un petit peu variés à l'intérieur. Nous, à Radio France, on est aujourd'hui 75, mais c'est vrai que c'est un effectif qui reste important et qui implique, comme le redisait Adèle, voilà, une vraie solidarité. Parce que je reviens pareil sur un témoignage précédent qui parlait du plaisir du chant a cappella. Hein, donc je rappelle, chant a cappella, chant
sans musique,
sans instrument, voilà,
sans instrument,
sans accompagnement. Et c'est vrai que là, souvent c'est en polyphonie avec plusieurs parties différentes. Et là, quel que soit le niveau, ça peut se pratiquer et chacun est en effet responsable de soi-même, évidemment, et aussi des autres, parce que chacun est nécessaire pour que le puzzle fonctionne. Et ça, je trouve ça très intéressant. À Radio France, on le développe au cœur même de plus en plus, même si notre première mission est celle évidemment d'accompagner les orchestres. Mais c'est pour les chœurs de tout niveau, ce travail sur l'a cappella, Bien sûr, il y aura peut-être des problèmes de justesse, évident, pour les chœurs moins expérimentés. Mais malgré tout, le son a cappella et on s'entend beaucoup mieux. Et c'est l'école de l'écoute, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Chanter, c'est pas uniquement produire un son, c'est aussi savoir s'écouter, écouter le groupe. Et c'est... pour ça, le travail a cappella est très intéressant.
Sur la taille des chœurs, effectivement, il y a quelque chose qui est important, c'est la question de la différence entre les chœurs dans lesquels on chante et les projets auxquels on va se rattacher. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le milieu choral. Souvent, on fait partie de sa chorale. Alors, la taille d'une chorale, ça peut être entre une vingtaine, trentaine, quarante personnes. C'est la taille moyenne hein, des chœurs amateurs. Mais ce qui se fait beaucoup dans le monde amateur, c'est ce qu'ils appellent les rassemblements. C'est-à-dire, on se regroupe à plusieurs chorales et on monte un projet sur un an à l'échelle d'un territoire, d'une ville, avec généralement un chef qui va diriger tout ça, ou alors avec les grandes fédérations. Et ça, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, hein, depuis le début du XXe siècle, même avant, au XIXe siècle, on avait ces rassemblements de choristes qui font des 900, voire des milliers de choristes. Voilà. Des milliers de choristes qui sont en fait, qui proviennent de plusieurs chorales, qui se mettent en commun, soit pour chanter des choses en commun, juste à cappella, soit pour montrer des projets un peu plus ambitieux, où on va en profiter pour payer un orchestre qui va nous accompagner. Et alors là, ça crée des sensations qui, en plus de la dimension vocale, ce que les choristes la retrouvent, c'est cette notion de se perdre dans la masse. Il y en a qui adorent ça et il y en a qui se méfient parce que qui ça panique un petit peu parce que ça fait aussi, il y a des, on va dire, des souvenirs politiques par derrière avec l'utilisation du chant choral dans les régimes totalitaires qui ressortent un petit peu de ça.
Et puis on peut se faire mal aussi parce que plus on est nombreux, moins souvent, c'est plus difficile de s'écouter, de s'entendre. Donc c'est aussi... il faut être vigilant.
Adèle Charvet ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut pas oublier aussi son propre instrument, même si on se noie un peu dans la masse.
Alors les auditeurs le voient pas, mais quand vous dites son propre instrument, il y a vos mains qui se dirigent vers le cœur, vers votre cœur d'ailleurs.
Oui, quand même la voix est un instrument fragile, il faut en prendre soin. Et moi, j'ai adoré faire du cœur de mes 7 ans à mes 21 ans, parce qu'on est au service de quelque chose de plus grand que soi. On est au service d'un son et on est au service d'une œuvre et on travaille pour le groupe. Mais il faut pas oublier de prendre soin de son instrument, quand même ne pas oublier de s'écouter.
Alors, puisqu'on parle chœur, je voudrais qu'on écoute le chœur de Radio France, justement. C'est un extrait, l'extrait d'un concert donné en juillet dernier en hommage à Joséphine Baker. Le chœur de Radio France qui reprend l'une de ses chansons. J'ai dit le cœur, mille pardons, évidemment, c'est la maîtrise de Radio France. Vous avez entendu la voix des enfants. Paris, 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 un morceau de Joséphine Baker. David Lefort, vous chantez, vous, dans le cœur de Radio France, mais vous vous rendez aussi, en tant que chanteur, dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des écoles. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette expérience ?
Pour moi, c'est très enrichissant et c'est une part vraiment très très importante de mon activité. La plus récente, celle dont je peux parler plus facilement, c'était un atelier sur 3 mois que j'ai développé dans un service addictologie dans un hôpital parisien et où il y a un groupe d'une douzaine de patients plus soignants. Hein, donc service addictologie et le but c'était un peu les initier au chant et alors toujours un petit peu l'enjeu quel groupe on va avoir, quel profil, est-ce que les gens vont chanter ou pas. Donc c'est à chaque fois que je mène ce genre d'opération, il y a une part d'inconnu, mais bon, c'est très enrichissant et en fait ça a commencé fin septembre, ça s'est terminé la semaine dernière, on a réussi contre vents et marées à faire un petit concert dans un hôpital parisien, ce qui n'a pas été simple dans le contexte actuel, il y avait très peu de public, mais on est allé jusqu'au bout et les participants étaient encore étaient très émus. Je voyais l'équipe dirigeante a envie de refaire une opération similaire.
Mais qu'est-ce
dans
que
les
le
prochaines
chant
années.
Apporte justement, à ces patients qui souffrent d'addictologie?
Voilà, certains. En tout cas, j'ai discuté après longuement avec le chef du service qui m'a dit qu'il avait vu certains patients qui ne s'exprimaient jamais, qui n'exprimaient très peu de sentiments, qui là s'ouvraient et on les entendait. C'était pas forcément ceux qui chantaient le plus juste, avec tout la bonne diction, mais ils ont trouvé quelque chose il y a quelque chose dans leur cerveau. Je pense l'autre invitée chercheuse en parlerait sûrement mieux que moi, qui les a ouverts à une discipline différente, et ils m'ont tous dit, et c'est amusant parce que tout à l'heure on parlait de chanter faux ou pas, c'est justement celui qui chantait entre guillemets le moins juste du groupe qui était le plus enthousiaste et qui a pris le plus de plaisir, et certes il chantait un peu moins juste que les autres, mais on a travaillé de manière à ce que ça se passe bien. Voilà. Et il était ravi. Et vraiment, j'ai senti un réel bénéfice. Et le médecin m'a dit, franchement, c'est que c'était vraiment étonnant sur le point de vue, surtout social. Mmh. Et voilà, d'ouverture aux autres.
Isabelle Rouche, vous qui êtes médecin, est-ce qu'on peut dire que le chant soigne?
Le chant soigne, en effet. Je vais vous raconter une expérience d'atelier de chant qu'on a mené sur des patients qui présentent une maladie d'Alzheimer à un stade relativement débutant. Et on avait utilisé une méthode scientifique, on avait comparé avec d'autres patients qui suivaient des ateliers peinture. Donc on a choisi volontairement des chefs de chœur professionnels, chanteuses et chefs de chœur professionnels, du coup qui n'avaient pas un regard de soignant vis-à-vis de patients avec une maladie, mais qui avaient un regard de chef avec des chanteurs. Et donc elles les ont fait apprendre quatre chansons pendant 12 semaines. Et ensuite, il y a eu un concert à la fin qui a été réalisé avec des jeunes chanteurs d'une école de chant, un pianiste professionnel, etc. Et donc, on a évalué un certain nombre de données, comme justement la douleur, on en parlait tout à l'heure, mais aussi ce qu'on appelle les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, et quelque chose qui est très important, c'est l'estime de soi. Hein, parce que la maladie d'Alzheimer, quand on vous annonce que vous avez une maladie d'Alzheimer, ben évidemment, ça met à mal complètement l'estime de soi. On était quelqu'un d'important, puis on devient un malade d'Alzheimer, entre guillemets. Et donc, on a pu voir que ces ateliers chants, avec ce concert comme ça à la fin, permettaient vraiment de diminuer la douleur. J'ai une petite anecdote qui est quand même significative. Il y avait une patiente qui était arrivée en fauteuil roulant, pas parce qu'elle avait une lésion de la moelle, hein, mais parce qu'elle avait du mal à marcher, elle avait mal. Et en repartant de la séance, elle avait oublié sa chaise roulante. Donc c'est quand même intéressant comme anecdote.
Ça a un petit côté miraculeux, on se croirait à Lourdes presque.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Quoi, les chanteurs sont peut-être plus forts que les médecins par moment.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent. Malice nous dit, lors de ma seconde grossesse, j'ai fait du chant prénatal alors que je suis une chanteuse pitoyable. Mon enfant est donc né accompagné de mes vocalises qui m'ont permis d'accompagner et même de transcender la douleur. J'ai accouché sans péridurale et je garde un souvenir merveilleux de ce moment-là. Chanter me met extrêmement mal à l'aise, nous dit Daniel. Et le plus étrange, c'est que je suis encore plus gêné de voir les gens chanter et apprécier le faire. Il en va de même pour la danse. Mathieu nous dit qu'il est comédien, qu'il a chanté pendant des années au théâtre, qu'il chantait si mal qu'on devait le doubler. Et un jour, lors d'une représentation, le metteur en scène lui a dit de se lâcher. Et après ça, on lui a dit « Tu chantes tellement mal que ça en devient poétique. » Vous pouvez continuer à nous envoyer vos commentaires, vos chansons, vos vocalises aussi. Hein. Dites-nous ce que vous aimez chanter. Pourquoi vous aimez le chanter? 01 45 24 7000 et sur l'appli de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Casse ton pied, ta tête, ta nuque, tout le monde, tout le monde, tout le monde. À l'époque,
qu'il voulait pas trop. Le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou. On fait tout, appelle-nous Foubou. Je fous les subs que tout bougeait, secoue. Je mets le fire dans ton igloo. Je frappe un coup de jab comme un nunchaku. Check si tu connais la ref. Mon Namboka, le monde est fou. T'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale. Yeah, boum et boum et les baffes.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers, ok.
Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé. Je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux, comme le staff Bendabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été. Non, toute l'année, c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois, c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front. Paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, je fais boum et boum et le caisson.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers,
ok.
Slasher, s'égayer. Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer.
Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers,
ok.
Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer.
Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers.
Les infrabasses, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse répéter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, tété. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
C'était Boomer, un extrait du dernier album de Gaël Faye. Un grand merci à Céline Hila qui, au débeauté, est en train de réaliser cette émission en suivant parfaitement la partition avec à la technique Clément Vuillet et Johanna Gabric.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Et la chercheuse Isabelle Rouche, la chanteuse Adèle Charvet, le chanteur au sein du chœur de Radio France David Lefort et le sociologue Guillaume Lurton sont les invités de Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui pour une émission consacrée à la chanson. Alors, je pose ça là, comme on dit, hein, assez trivialement, mais en préparant l'émission, je suis tombé sur une enquête relayée par le New York Post qui suggère que parmi différents styles de musique des années 50 aux années maintenant, de nos jours, ce sont les tubes des années 80 qui seraient les plus efficaces pour réduire et la tension artérielle et la fréquence cardiaque, et donc conduire à un certain apaisement. Et honnêtement, je me suis demandé pourquoi, parce que le souvenir que j'ai des tubes des années 80, je sais pas, m'incline pas forcément à me sentir plus tranquille.
J'ai un peu de mal à y croire, là, avec les, entre les synthés affreux et les boîtes à rythme. Bon, permettez-moi de m'interroger. Mais...
Je suis aussi interrogatif que vous. Quel est, Guillaume Lurton, le chant le plus fréquent dans les... Enfin, le type de chant le plus fréquent dans les chorales? Est-ce qu'on chante du gospel? Est-ce qu'on chante du jazz? Est-ce qu'on chante du classique ou des tubes des années 80?
Alors, dans les chorales, le principe, c'est qu'on chante de tout. Alors évidemment il y a des chœurs qui sont spécialisés, hein, ce qu'on se rend compte c'est il y a des chœurs qui vont se construire autour d'un répertoire privilégié, alors que ce soit de la musique classique, ça peut être très pointu, le répertoire baroque, la musique ancienne, ou alors le jazz choral, negro spirituals, tout type de répertoire. Mais en fait une des grosses spécificités du chœur, c'est que il y a beaucoup d'ensembles qui en fait font un petit peu de tout, et en fait pour une raison assez simple, je disais l'objectif c'est d'arriver à rassembler des gens qui sont pas forcément là pour les mêmes raisons. Et en fait, un des grands problèmes pour le chef de chœur, c'est comment faire pour que chacun s'y retrouve à un moment donné. Donc, en fait, on tire un petit peu dans tous les coins et on essaye de construire des répertoires éclectiques qui sont assez caractéristiques, en fait, de la pratique chorale amateur.
Donc on passe de, Maria Carré à Bach.
Voilà, ou alors peut-être pas Bach, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus facile de mettre en place en chœur, mais alors évidemment, bon, il y a des grands classiques hein, dans le milieu choral amateur, le répertoire Renaissance, les Negro Spirituals, les chansons populaires harmonisées, la musique du monde. Il y a beaucoup de choses qui circulent, parce qu'en fait, tous les chœurs sont beaucoup en réseau, il y a des fédérations qui animent tout ce milieu-là, qui fait qu'on retrouve un petit peu des tubes qui plaisent, dans lequel les chefs savent que les chanteurs vont se faire plaisir.
Sur franceinter.fr, Bruno nous interpelle. Alors bonjour, nous dit-il, j'ai grand plaisir à chanter dans deux ensembles vocaux amateurs, mais quelle galère quand il s'agit de recruter des hommes. Notre culture semble bien loin de celle des pays de l'Est ou du Nord, qui semble moins timorée, moins macho, a écrit entre parenthèses Bruno, que nous, les Latins. Votre avis, vous qui chantez dans un chœur, David Lefort.
Écoutez, le sur le côté, mais c'est pas cette question en fait vient.
Par... On le voit bien. En tout cas, quand on regarde des chorales ou quand on fait partie d'une chorale, il y a toujours plus de femmes que d'hommes.
Oui, c'est un peu le sujet délicat. Alors, dans mon milieu professionnel, c'est à peu près équilibré. Oui, oui. Mais quoique, quand il y a des concours dans différents ensembles professionnels, il se trouve que là où il y a le plus de candidats, c'est chez les femmes que chez les hommes. En gros, hein, schématiquement. Mais c'est vrai que je crois que dans les chœurs amateurs, et je le vois aussi, c'est plus compliqué notamment, mais je pense que monsieur pourra en parler encore plus facilement, un déficit entre hommes et femmes, et malheureusement plutôt... malheureusement, du coup, c'est pas équilibré et ça crée des problèmes d'homogénéité de niveau chez les hommes notamment.
C'est le grand problème des chorales amateurs, c'est comment. De recruter des hommes. Je pense qu'il y a plein de raisons, peut-être des raisons historiques, parce qu'en fait le chant choral amateur, bon, ça se développe depuis le 19e siècle. À un moment donné, ce qu'on lit, certains historiens disent, au début du 20e siècle, il y a eu pas une concurrence, mais deux formes de pratique amateur, le chant choral et l'harmonie. Et finalement, on retrouve plus d'hommes dans la musique d'harmonie, avec peut-être voilà une représentation plus virile du musicien derrière sa trompette ou son cuivre, tandis que les chorales commençaient à évoluer vers des groupes plus féminins. Mais il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure, qui était cette question du rapport à l'émotion, cette question de rapport à la sensibilité.
Comme vous Maïté, l'auditrice, tout à l'heure, qui nous disait qu'elle avait des poils qui se hérissaient et que parfois elle pleurait quand elle chantait.
Mais même quand on pleure pas, chanter, c'est se mettre en danger. Chanter, c'est se mettre à nu. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est plus difficile dans une culture et dans des représentations qui sont les valeurs culturelles associées à la masculinité, plus difficile d'accepter cette mise en danger de soi sur quelque chose qu'on maîtrise pas totalement et qui représente nos émotions.
Mais quel bonheur de pouvoir y accéder, parce que pleurer et chanter en même temps, c'est une joie plutôt rare. Adèle Charvet, quelle est la chanson qui vous rend heureuse ?
Oula, une seule chanson.
Bah, vous avez le droit de, si vous voulez.
Alors vous allez rire, mais en ce moment, moi, je suis très très sérieuse avec Noël. Et bon, on repart dans les années 80 du coup, mais j'adore la chanson de Noël de Wham. Last Christmas, I gave you my heart. Et tous les matins, je l'écoute.
Vous l'écoutez tous les matins ?
Au mois de décembre, oui. En buvant mon café devant mon sapin, et ça me met de bonne humeur pour la journée.
Pourtant, c'est pas musicalement extraordinaire.
Non, mais c'est catchy, ça marche, elle est bien produite, c'est bien chanté. En ce moment, c'est une chanson qui me met en joie, mais évidemment, je n'écoute pas que Wham tous les matins de toute l'année.
Alors, c'est pas George Michael que je vous propose d'écouter, mais un extrait de Roméo et Juliette de Niccolo Zingarelli avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles sous la direction de Stefan Plevniak. Et c'est vous qui chantez, Adèle Charvet.
Oh,
Adèle Charvet. Donc, et vous n'avez jamais entendu votre propre production.
Oui.
C'est la première fois que vous l'entendez.
Parce qu'en fait, je viens de recevoir les disques. Il se trouve que les disques du label Versailles Spectacle ne sont pas sur les plateformes de streaming. Et je viens de recevoir mes exemplaires du disque et j'ai du mal à m'écouter. En fait, j'aime pas ça.
Pourquoi?
Je le fais pas du tout volontiers.
Vous voulez pas vous infliger, surtout la veille du 24 décembre, vous faire un cadeau empoisonné.
C'est pas grave, je vais écouter Wham et puis après tout ira bien.
On peut vous mettre un morceau un petit bout de Wham si vous voulez. Sur franceinter.fr, ce message qui continue de nous arriver, ce message de Mona qui dit notamment, pour mettre une petite note amusante à votre émission, un jour, une de mes petites sœurs a demandé à ma mère, dis maman, c'est qui t'a jamais appris à chanter? Et puis, cet autre message d'Agnès, un peu dans le même ordre d'idée. Bonjour, depuis que mes enfants m'ont dit avec une grande franchise que je chantais entre la poêle et la casserole, je n'ai aucun scrupule à chanter les choses. Voilà, les choses sont dites et je me fais plaisir à chanter. Et les plus gênés s'en vont. C'est vrai que ça revient à ce qu'on se disait au début, Guillaume Lurton, mais il faut passer ce cap-là, finalement, de cette gêne qu'on peut tous avoir avec cette justesse.
Oui, c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de choristes amateurs. L'idée que, bah, finalement, chanter, comme le disait Adèle tout à l'heure, c'est se mettre à nu, c'est y a une part de prise de danger. Et je pense que c'est pour ça aussi que le chœur attire beaucoup. C'est-à-dire le chœur, c'est un environnement dans lequel on peut faire ça dans un cadre collectif qui est relativement protecteur. On se met un petit peu derrière.
On est nu, mais à plusieurs, vous voulez dire.
Mais à plusieurs, et puis sa voix est un petit peu cachée derrière. On se cache derrière les autres.
Et du coup, c'est une très bonne école aussi pour une meilleure confiance en soi. Voilà, comme vous dites, on est au sein d'un groupe, donc on n'est pas complètement dévoilé. Mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes comme ça s'ouvrir grâce à ça, parce qu'ils se rendent compte. Au début, ils chantent un tout petit peu, première répétition, et puis un petit
exactement,
peu plus. Et puis, alors le but c'est qu'ils chantent pas trop. Hein, il faut pas qu'ils chantent plus fort que les voisins. Mais c'est une très bonne école.
À ce moment-là, le chef les fait bouger. Il va les mettre entre deux chanteurs qui vont lui chanter en stéréo, dans chaque oreille, pour arriver à le faire prendre confiance. Et puis progressivement, on va prendre confiance. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi, je pense, bon, on parle beaucoup des questions de chanter faux, tout ça, et il faut aussi dédramatiser ça, parce qu'il y a un peu cette moquerie derrière les gens qui chantent faux. Il n'y a pas de fatalité. Les gens évoluent, et on est dans un groupe et on progresse.
Et puis l'essentiel, c'est de chanter, finalement. Merci à vous tous d'avoir été dans Grand Bien Vous Fasse en direct aujourd'hui. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur les plateformes de podcast, et puis évidemment sur franceinter.fr, et on se retrouve demain. Ce sera un petit peu la fête demain avec une émission assez décalée, avec notamment les cartes de France des régions où on s'insulte le plus, ou au contraire celles où on fait le plus l'amour, avec les musées les plus saugrenus aussi, comme le musée du cure-dent. Donc demain, on attend déjà vos commentaires sur l'appli de France Inter.